Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 2. Quand il fallut se remettre en route le lendemain, Douvel constata que le cheval qu'il montait n'avait pas l'allure des jours précédents. La bête paraissait prise de douleur, qui par moments l'obligeait de s'arrêter. Le lieutenant fit remarquer à son guide que les montures donnaient des signes non équivoques de détresse. Papaye répondit « Je vais me mettre en mesure de vous en procurer d'autres. Mais pour cela, il faudra que nous puissions atteindre la lisière opposée de la forêt. » En entendant parler de traverser l'immense étendue de bois, Marianne avait tressailli. Plus que jamais, les mauvais pressentiments l'assiégeaient, en dépit de tout ce que pouvait dire Douvel pour la rassurer. On s'était engagé dans une de ces forêts dites vierges pour expliquer que la hache du bûcheron n'a jamais entaillé aucun de ces arbres séculaires au tronc desquels s'enchevêtrent des lianes sans fin. Ces lianes forment des tissus de verdure aux tons variés, travail gigantesque que la nature a pris des siècles à accomplir et qui, chaque année, s'augmente d'un détail nouveau, rendant plus inextricable encore ces labyrinthes peuplés de grands reptiles, de carnassiers féroces et aussi, comme contraste à ces autres redoutables des forêts, d'oiseaux chanteurs et pour lesquels la nature, dans une de ses admirables fantaisies artistiques, a fait de véritables débauches de palettes, soit pour colorer à grands coups le plumage des haras, les perroquets aux variétés infinies, le rossignol géant aux ailes noires et jaunes, soit pour harmoniser les tons les plus fins, les nuances les plus tendres sur la gorge et les ailes des perruches argentées, des bibi-parleurs merveilleusement habillés de la robe gris ardoise avec capuchon lilas bordé de noir, des loriots bleus aux reflets tantôt roses, tantôt jaunes, selon que l'oiseau vole dans un rayon de soleil ou dans un clair de lune. L'Indien précédait les voyageurs, cherchant à leur frayer un passage, ce qui devenait de plus en plus difficile à mesure qu'on avançait dans cette agglomération d'essences de toutes sortes, tels que le mapon géant, l'acajou au tronc noueux, le palmiste savonneux dont le panache vert domine le dôme des feuillages avec sa flèche droite comme une aigrette de commandement. « Quand serons-nous à la lisière où vous voulez nous conduire ?» demanda Douvel lorsqu'on eut marché pendant plusieurs heures déjà. « Papaye espère que ce sera vers le soir, quand l'oiseau des lunes aura chanté. » Et Marianne, qui avait entendu, éprouva la sensation d'une pointe aiguë qui lui eut subitement pénétré dans le cœur. C'est que cette fois, il ne lui avait plus été permis de douter. Le visage de l'Indien avait pris une expression de férocité subite qui n'avait duré qu'une seconde, mais que Marianne avait saisie au passage. Instinctivement, elle porta la main à son corsage, sous la mante qui lui couvrait les épaules. Elle s'assurait ainsi que le manche du poignard était toujours à portée de sa main et qu'elle pourrait s'armer immédiatement s'il arrivait qu'elle eût besoin de se défendre. À partir de ce moment, la jeune femme ne connut plus un moment de quiétude. Son imagination enfantait les idées les plus noires, les drames les plus sanglants. Dans son esprit surexcité, les tableaux lugubres se succédaient pour augmenter encore, s'il se pouvait, ses transes et ses terreurs. On avançait en silence, lentement, car il fallait presque à chaque pas s'arrêter devant un obstacle, contourner un rocher qu'on n'avait pas aperçu derrière des avancées de broussailles aux longues épines, aux feuilles tranchantes, devant lesquelles il fallait, voyageurs et chevaux, battre en retraite. Tout à coup, Papaye se tournant vers Douvel. « Le grand esprit a changé les arbres de place, » dit-il. « Je ne vois plus le passage. »« Quoi ?» s'écria le lieutenant d'un ton bref. Mais l'Indien ne se laissa pas intimider par le regard sévère dont l'enveloppa le voyageur. « Oui, » reprit-il, « Papaye, pour la première fois de sa vie, ne retrouve plus les sentiers. Le grand esprit a tendu des lianes partout et rapproché les arbres. Il a fait sortir de terre des rochers. Le grand esprit est tout puissant. La forêt est à lui, comme la plaine. Il peut faire que des trous se creusent pour former des abîmes, que les arbres étendent leurs branches jusqu'au ciel ou les abaissent jusqu'à terre. Le grand esprit est le maître. Et Papaye doit s'incliner devant la volonté du grand esprit. » En même temps qu'il prononçait ces mots, l'Indien se prosternait dans l'attitude d'un homme implorant l'intervention divine dans un péril imminent. Marianne échangea un regard avec son mari. Et comme si celui-ci eût eu à ce moment la même pensée que la jeune femme, il sauta à bas de son cheval, le pistolet au poing, et s'adressant au guide. « Il faut marcher, » dit-il, d'un ton d'énergique résolution. « Si le grand esprit a voulu tout ce que tu viens d'énumérer, la prière que tu viens de lui adresser doit avoir produit son effet. Donc, tu vas te lever, papaye, et nous guider hors de cette forêt, puisque nous devons, au bout de ce trajet, pouvoir nous procurer des chevaux frais pour remplacer les nôtres qui sont épuisés de fatigue. » Et affectant de montrer l'arme qu'il tenait à la main, il ajouta « Allons, remettons-nous en route !» L'Indien se trouva d'un bond sur ses jambes. « Marchons !» dit-il, en faisant mine de prendre par la bride le cheval qui portait la valise. Mais le lieutenant lui repoussa le bras. « Je me charge de cela !» dit-il. Marianne avait également mis pied à terre. Papaye, au moyen du bâton qu'il avait coupé pour écarter les broussailles, essayait à grands efforts apparents de frayer un passage à ses deux compagnons. Mais plus ils avançaient et plus les obstacles s'accumulaient devant eux. Il arriva un moment où ils se trouvèrent, comme s'ils eussent été guidés exprès, engagés dans un véritable labyrinthe et menacés d'être séparés les uns des autres par d'inextricables enchevêtrements de lianes qui paraissaient avoir été agglomérées là avec un art extrême pour que ceux qui se hasarderaient à vouloir passer outre y fussent pris comme dans des filets. Douvel et Marianne avaient jusque-là suivi le guide qui paraissait redoubler d'efforts pour les faire sortir de la forêt. Mais lorsque les deux voyageurs eurent pu se rendre compte que la situation, au lieu de s'améliorer, ne faisait que devenir de plus en plus dangereuse, ils déclarèrent ne plus vouloir tenter l'impossible. « Il faut retourner sur nos pas, papaye !» commanda Douvel en élevant la voix, comme lorsqu'à bord du Glorieux, il s'agissait de donner un ordre. Marianne se pendait à son bras par un instinctif besoin de trouver une protection énergique. « Non, » répondit l'Indien, « il ne nous serait pas plus facile de sortir d'ici qu'il nous a été facile de pénétrer au milieu de ces arbres que le grand esprit fait marcher pour nous entourer chaque fois que nous sommes sur le point de trouver une issue. Le grand esprit ne veut pas que nous sortions de cette forêt. Papaye doit obéir. » Il n'y avait plus à douter de la mauvaise volonté du guide. Douvel appuya le canon du pistolet sur la poitrine de l'Indien en s'écriant « Est-ce que papa y trahirait ceux qui le paient pour les guider ?»« Papa y n'est pas un traître !» répliqua le guide qui ne broncha pas devant la menace dont il était l'objet. « Tu dois connaître la forêt !» reprit le lieutenant. « Tu nous as promis de nous la faire traverser !» puis s'animant, les yeux exprimant la colère. « Que viens-tu nous parler de miracles qu'accomplirait un être qui, à ce que tu prétends, commanderait aux arbres et aux lianes ?» « Il n'y a pas de grand esprit qui puisse changer les dispositions d'une forêt et nous arrêter dans notre voyage. Tu vas donc nous tirer d'ici, papaye, ou je te tuerai comme un misérable traître, comme un malfaiteur qui aurait eu l'idée de nous entraîner en ce lieu pour nous dévaliser et nous assassiner. Tuez papaye, si vous voulez, et papaye ira se prosterner au pied du grand esprit qui lui donnera le bonheur éternel au fond du grand lac. » Et l'Indien écartait les bras, découvrant sa poitrine, comme pour recevoir la balle dont on le menaçait. Douvel hésita. Son regard avait croisé celui de Marianne, et les yeux de la jeune femme disaient tout ce qu'il y avait en même temps d'effroi et de pitié en son âme. Surmontant la répugnance instinctive que lui avait toujours inspiré le guide, elle s'adressa à celui-ci pour lui dire « Je ne veux pas supposer qu'en nous conduisant ici, vous ayez eu l'intention de nous trahir. J'ajouterai même que j'ai toute confiance en vous. Vous n'aurez donc rien à craindre si vous consentez à faire votre possible pour nous tirer de la situation où nous sommes, vous aussi bien que nous. » Marianne avait parlé avec calme, s'efforçant de se contenir alors que la colère égalait la terreur qui l'avait envahie. Elle alla même jusqu'à détourner le pistolet de la poitrine du guide pour prouver à celui-ci qu'il n'avait plus rien à redouter. Papaye s'inclina sans lever les yeux sur la jeune femme. Il la regardait cependant à la façon des sauvages, sans en avoir l'air, mais ne perdant pas de vue la physionomie des deux voyageurs. Or, Papaye se rendait parfaitement compte que les deux époux subissaient la plus grande perplexité. Il était évident, en effet, que le lieutenant jugeait parfaitement la situation et que s'il en arrivait à ce point d'avoir à se débarrasser de ce traître, il se trouverait dans le plus grand embarras pour continuer son voyage dans ce pays qui lui était absolument inconnu. Le guide lisait tout cela dans les regards qu'échangeaient les deux voyageurs. Aussi, loin de se rendre au conseil que venait de lui adresser Marianne, se contenta-t-il de répondre. « Papa y a donné sa parole qu'il conduirait les voyageurs. S'il arrête ici, c'est que la volonté du grand esprit est qu'il en soit ainsi. » Puis regardant bien en face le lieutenant, « Papa, il n'a pas peur de mourir, » dit-il. « Quand il plaira au grand esprit de l'appeler à lui, papa, il sera prêt. Et il s'en ira avec bonheur retrouver son père dans le grand lac où les aïeux de papaye chantent et dansent éternellement. » Et il leva de nouveau les bras au ciel. Douvel eut une inspiration. Ne doutant plus maintenant que le guide eut l'habitude de rançonner les voyageurs qui se confiaient à lui, il dit à brûle-pourpoint à l'Indien, « Papaye doit savoir ce qu'on peut offrir en sacrifice au grand esprit, pour que le maître qui commande aux arbres de la forêt nous permette de venir à bout de ces lianes enchevêtrées et fasse que les arbres s'écartent et nous livrent passage. » Et le lieutenant ajouta, « Papaye peut, du reste, invoquer le grand esprit et lui demander le genre de sacrifice qu'il lui plaira de nous imposer, afin de nous devenir favorables. » En même temps, Douvel prenait dans sa poche une clé au moyen de laquelle il ouvrait la valise. Les yeux de l'Indien brillèrent comme brillent les yeux de l'avare qui rend visite à son trésor. D'un bond, il fut à côté du lieutenant et plongea son regard dans l'intérieur de la valise. Douvel lui empoigna vigoureusement le bras. « Ne crois-tu pas, dit-il, que le grand esprit serait sensible à une offrande de pièces d'or, que papaye pourrait, une fois le voyage accompli, aller jeter dans le grand lac ?» Et comme l'Indien paraissait absorbé dans une profonde contemplation de l'or que Douvel lui montrait, le lieutenant continua. « Papaye connaît assurément la façon de s'entretenir avec le grand esprit. Il pourrait l'interroger. Qu'il le fasse !» Le guide, à la vue du trésor qu'il convoitait, s'oublia pendant une seconde. Il eut un frissonnement provoqué par la joie qui l'animait. Mais s'apercevant aussitôt de l'imprudence qu'il commettait, il reprit d'un ton calme et lent cette fois. « Avant que papaye ne se hasarde à parler au grand esprit, il faut que le maître qui commande lui en ait donné la permission. »« Eh bien, parle-lui, » interrompit Douvel impatienté. L'Indien s'inclina, indiquant par là qu'il allait obéir. Il passa en effet derrière le tronc moussu d'un mapon, et pendant quelques minutes, on put l'entendre marmotter des paroles dans le jargon en usage dans sa tribu. Douvel et Marianne gardaient le silence. Mais la jeune femme n'approuvait pas, bien qu'elle n'en dît rien, que son mari eût ouvert la valise et fait voir au guide l'or qu'il possédait. Étant donné les pressentiments et les soupçons qu'elle avait, il lui paraissait que c'était là une grande imprudence et la cupidité bien connue des Indiens pouvait être excitée. Néanmoins, elle espérait que le guide allait, après la comédie qu'il jouait derrière l'arbre, venir annoncer que le grand esprit acceptait qu'on lui fît l'offrande de quelques pièces et que, moyennant cela, il se montrerait plus favorable pendant le reste du voyage. Aussi ne fût-ce pas sans un mouvement de satisfaction qu'elle vit apparaître l'Indien écartant les branches feuillues qu'il avait, pendant l'invocation, dérobées à la vue des deux voyageurs. Papaye montrait un visage souriant. « Eh bien, lui dit Douvel, qu'a répondu le maître de la forêt ? » L'Indien prononça d'une voix lente. « Le grand esprit accepte. »« Quoi ? » Une offrande d'or et d'argent. Le lieutenant prit dans la valise deux pièces, une en or, l'autre en argent, et les présentant au guide. Voici, tu pourras, au terme du voyage, aller jeter cela dans le grand lac, et je suis persuadé que le grand esprit ne manquera pas de recevoir cette offrande avec plaisir. Papaye prit les pièces et les fit disparaître dans un petit sac en cuir de daim orné de plumes de perroquet qu'il portait à sa ceinture à côté de son tomahawk. C'est bien, fit-il simplement. Mais son visage avait pris une expression sévère qui fit tressaillir Marianne. « Est-ce assez ? » demanda-t-elle. « J'ignore, répondit le guide, si le grand esprit sera complètement satisfait. « Nous verrons bien, interrompit Douvel, s'il nous laisse à présent le passage libre dans la forêt. » Et il ajouta en rebouchant la malle. « Nous allons donc nous remettre en route, papaye. Déjà la moitié de la journée est perdue. Je ne pense pas que nous la rattrapions avec les chevaux dont nous disposons pour le moment. » « Marchons !» dit l'Indien en écartant à coups de bâton les broussailles. Les deux voyageurs le suivirent. Derrière l'obstacle, un sentier apparut, comme si un travailleur invisible l'eût tracé mystérieusement pendant que la discussion que nous venons de rapporter avait lieu entre les voyageurs et leur guide. Le lieutenant eut un mouvement de joie. « Le grand esprit, dit-il plaisamment, accepte, paraît-il avec satisfaction, l'offrande que je lui fais. C'est très bien à lui de se montrer favorable à notre ardent désir de sortir de cette forêt. » L'Indien ne répondit pas. Il avait saisi les chevaux par la bride et les entraînait avec la plus grande difficulté, les deux malheureuses bêtes refusant d'avancer au milieu des ronces. Douvel redoutait maintenant qu'on s'était remis en marche, que quelque nouvel incident ne vint encore interrompre cet interminable voyage. Ce qui pouvait arriver de plus désagréable et de plus dangereux à la fois, ce serait, pensait-il, que l'on fût obligé d'abandonner les chevaux avant d'avoir atteint la lisière de la forêt. Mais Marianne allait bien plus loin dans ses craintes. Elle se demandait si l'Indien, à la sincérité duquel elle refusait plus que jamais de croire, ne leur ménageait pas, à elle et à son mari, quelque nouveau tour de sa façon. Bien que l'on eût suivi assez facilement un sentier, la marche avait été lente. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis que l'on était entré dans la forêt. Les voyageurs pouvaient au surplus se rendre difficilement compte du chemin parcouru. Il semblait même à Marianne, beaucoup plus attentive, que l'on repassait par les mêmes endroits. Elle croyait reconnaître certains arbres, soit à leurs dimensions gigantesques qui l'avaient frappée, soit à des lianes qui s'enroulaient comme des serpents sans fin autour de leur tronc pour venir pendre stalactites vivantes le long des branches. Cependant, la jeune femme ne voulait pas s'arrêter à cette supposition qui l'eût confirmée dans l'opinion que le guide continuait à les trahir. Bientôt, toutefois, il fallut se rendre à l'évidence. Il y avait déjà plus de 2 heures, Douvel l'avait constaté à sa montre, que l'on s'était remis en route et il ne paraissait pas qu'on fût sorti des profondeurs les plus touffues de la forêt. C'était toujours de nouveaux obstacles qui se présentaient et qui obligeaient les voyageurs à chercher une autre issue. Le guide indiquait alors la nouvelle direction à suivre, et l'on s'y engageait avec courage dans l'espoir que ce serait la dernière étape dans cette forêt. Par moments, l'Indien s'arrêtait net, et avant qu'on eût pu s'informer du motif de cette brusque interruption dans la marche, un sifflement se faisait entendre annonçant la présence d'un serpent. Il fallait alors battre en retraite, et le guide donnait des signes d'une sainte terreur, fuyant le reptile comme s'il eût obéi à des ordres mystérieux venant du grand esprit. Et les voyageurs pouvaient l'entendre marmotter des phrases, quelque chose comme une prière adressée sans doute au serpent. D'autres fois, c'était un vol d'aras qui passait au milieu des feuilles, à la cime des arbres, en criant. Et le guide s'arrêtait de nouveau, sous prétexte de voir la direction que prendraient les oiseaux. Après quoi, il faisait de nouveau changer de direction aux voyageurs, comme pour obéir à l'indication donnée par les haras. Et toujours quelque nouvel incident venait empêcher que l'on atteignît la lisière. Déjà, le jour commençait à baisser. On devait ou forcer la marche, ou se décider à passer la nuit dans la forêt. Les chevaux se traînaient lamentablement. L'un d'eux se mit tout à coup à trembler sur ses 4 jambes tendues et raidies. Puis il s'abattit en hennissant de douleur. « Il va mourir !» prononça le guide. Et prestement, il se mit à débarrasser la bête de son harnachement. C'était la monture de Douvel, laquelle avait déjà à plusieurs reprises donné des signes de détresse. Le lieutenant espérait que, du moins, l'animal pourrait aller jusqu'à l'endroit où le guide prétendait pouvoir trouver à le remplacer par un cheval frais. Aussi le ménageait-on le plus possible. L'Indien se risqua même à proposer qu'on soulageât la bête du poids de la valise. Il offrit de la porter sur ses épaules. « Non, » dit vivement Marianne. « Mon mari et moi, nous allons la prendre chacun par un anneau et nous la porterons bien nous-mêmes. » Et pour expliquer son refus, elle ajouta, s'adressant à l'Indien. « Papa y a bien autre chose à faire. Il a besoin d'être leste et vif pour nous frayer un chemin. Que papa y marche donc librement, afin de nous conduire à l'endroit où nous pourrons faire halte pour prendre notre repas du soir. » Si la jeune femme faisait ainsi allusion au souper, c'est qu'elle avait remarqué que chaque fois qu'on faisait halte pour manger, papa y s'était montré d'une voracité excessive. En outre, il dégustait, avec de petits claquements de langue de connaisseur, le verre de tafia dont Douvel voulait bien le gratifier. Marianne espérait qu'en parlant au guide du souper que l'on prendrait, quand on serait sorti de cette maudite forêt, elle déciderait l'Indien à faire diligence. En effet, il sembla que papa y manifestait une certaine joie et déployait un peu plus d'activité qu'il n'avait fait jusqu'à ce moment. « Si le grand esprit le veut, » dit-il en regardant les voyageurs, « nous pourrons être arrivés à la halte avant que la lune ne se montre au-dessus du Mâpon. » « Et que veut-il encore, ton grand esprit ?» demanda Douvel, que la perspective de voir enfin le terme de cette marche en forêt regaillardissait un peu. Je croyais avoir été généreux en lui faisant une offrande qui double le montant de la somme dont nous étions convenus pour récompenser tes services. En serait-il autrement, papaye ? L'Indien inclina la tête. « Alors tu prétends que celui qui est le maître de cette maudite forêt n'est pas encore satisfait ?»« Peut-être, » prononça le guide. Puis il ajouta. « Je vais consulter le grand esprit. »« Plus tard, » répliqua le lieutenant. « Cela nous ferait perdre un temps précieux. Continuons à marcher. Ne vois-tu pas du reste, papaye, que notre pauvre cheval peut à peine se dépêtrer des lianes qui l'entravent à chaque pas ? Si nous tardons, il va imiter son compagnon d'infortune. » Comme si Douvel eût eu le pressentiment de ce qui allait arriver, le cheval hennit et se mit à trembler sur ses membres raidis. C'était l'agonie qui commençait pour la malheureuse bête qui allait mourir comme était mort l'autre cheval. Le guide leva les bras au-dessus de sa tête. « Voilà la récompense du grand esprit !» dit-il en montrant le cheval qui râlait. Marianne devint livide. Ce que n'avait pas vu le lieutenant, elle l'avait deviné, elle. L'Indien s'était débarrassé des deux chevaux afin d'enlever aux voyageurs la possibilité de fuir s'ils se sentaient subitement menacés. Papaye s'était servi pour tuer les deux bêtes d'un procédé connu des sauvages, une simple piqûre dans le naseau au moyen de la flèche aiguë d'une herbe vénéneuse. Marianne avait entendu parler par les nègres de la Louisiane des poisons subtils, foudroyants, dont on se servait dans le Congo pour détruire les animaux nuisibles. Elle ne douta plus. À présent, l'Indien était bien certain que les deux voyageurs seraient à sa discrétion quand il le voudrait. Le misérable traître avait mené la chose de loin et il n'y avait pas d'espoir qu'il consentît, moyennant une somme quelconque, à abandonner ses odieux projets. Dans la conviction de Marianne, papaye allait les traîner ainsi, son mari et elle, jusqu'à ce que la nuit arrivant, les ténèbres envahiraient la forêt. C'est alors que l'Indien se chargerait d'avoir raison des résistances qu'on pourrait ou qu'on voudrait lui opposer. C'est alors que ce voyage, commencé sous les meilleurs auspices, se terminerait d'une façon tragique, quelle que pût être, du reste, l'issue d'une lutte entre les voyageurs et leur guide infidèle, jetant le masque. Marianne hésitait à faire part à son mari des transes qui l'assaillaient de nouveau, plus violentes que jamais. Elle s'était instinctivement cramponnée au bras de Douvel. Le lieutenant était maintenant comme atterré. Il avait sérieusement cru que la fin de cette marche s'accomplirait sans nouvel incident. Et il était obligé de reconnaître que tout était remis en question. « Papaye, » dit-il en posant sa main nerveuse sur l'épaule nue de l'Indien. « Je veux, entends-tu bien, je veux que nous sortions de cette situation. Sous aucun prétexte, je ne consentirai à passer la nuit dans cette forêt. » « Le grand esprit, » commença le guide, mais Douvel l'interrompit en s'écriant avec colère. « Et que m'importe ton imbécile de grand esprit ? Tu t'es donc figuré que je croyais à la puissance de cet être, que tu prétends être le maître de la forêt, et qui n'existe que dans ton imagination ? Penses-tu que nous, les civilisés, nous ajoutons foi à toutes les billevesées qui font le fond de votre croyance religieuse, à vous autres sauvages ?» Le lieutenant, se laissant emporter par la colère, ne prenait plus aucun ménagement avec le guide. Douvel retrouvait, après avoir usé jusque-là de patience, afin de ne pas compromettre la fin de ce voyage, toute son ardeur batailleuse du temps où il faisait partie de la Marine royale de France. Il lui répugnait de finasser avec un sauvage qu'il soupçonnait de vouloir le trahir. S'il acquérait la conviction que le guide, après avoir reçu une somme pour cela, refusait de tenir les conventions consenties de part et d'autre, il ne devait plus rester aux voyageurs frustrés qu'à châtier le voleur. Dans les conditions d'esprit où il se trouvait, le lieutenant était tout prêt à loger une balle dans la tête de l'Indien au premier signe d'insubordination que ferait celui-ci. Il poursuivit donc en braquant les canons de ses pistolets sur la poitrine de papaye. « Tu sais maintenant ce que je pense de ton grand esprit et de toutes les simagrées religieuses dont il t'a plu de nous donner le ridicule spectacle. Eh bien, je te dis pour la dernière fois, marche, guide-nous hors de cette forêt. Nous n'avons plus de chevaux pour continuer le voyage, il faut que tu nous en procures d'autres dont je paierai largement la valeur. Mais sache bien aussi que je veux, entends-tu, que nous soyons sortis de la forêt avant qu'il ne fasse nuit noire. Tu n'as pas à espérer que je revienne sur ce que je dis en ce moment. Je connais les Indiens. Je sais que vous ne vous trompez jamais de direction, que vous êtes les plus habiles, comme les plus intrépides guides qu'on puisse trouver. Par conséquent, je n'accepte pas comme valable toutes tes histoires d'une volonté mystérieuse qui t'empêche de retrouver ton chemin dans cette forêt que tu as déjà probablement traversée des centaines de fois depuis que tu te charges de conduire des voyageurs. Tu vas donc m'obéir sans retard. » « Et si papa y refusait de désobéir au grand esprit ?» demanda l'Indien avec son éternel sourire. « Dans ce cas, Voici un pistolet qui se chargerait d'envoyer papa et rejoindre son grand esprit, répliqua Douvel. Marianne avait écouté, partagée entre deux sentiments, celui de l'orgueil, en constatant que son mari n'était pas dupe des ruses de l'Indien et qu'il se montrait énergique, et celui de la peur, en pensant que privés de leur guide, Douvel et elle seraient, pour continuer le voyage, aux prises avec des difficultés peut-être insurmontables. Elle reprit courage, cependant, en voyant que Papaye se décidait à obéir. Le guide avait effectivement fait quelques pas comme pour s'orienter. Puis il était revenu auprès des voyageurs pour dire au lieutenant. « Papaye va faire tout son possible. Ce n'est pas qu'il ait peur du pistolet, mais il tient à tenir les engagements qu'il a pris. Tu n'as plus à t'occuper que d'ouvrir la marche et de te mettre en mesure de nous procurer des montures fraîches. » « Bien, » répondit simplement Papaye. On s'était remis en route dans ces conditions nouvelles. Mais à partir de ce moment, Douvel eut continuellement l'œil sur le guide et l'oreille ouverte au moindre bruit qui se faisait entendre dans la forêt. On avançait lentement au milieu des broussailles qui se faisaient de plus en plus épaisses. Tout à coup, l'Indien disparut sans que ni l'un ni l'autre des voyageurs pût se rendre compte de ce qu'il était devenu. « Papaye !» appela le lieutenant. Pas de réponse. « Papaye !» cria pour la seconde fois Douvel. Cette fois, un ricanement éclata qui semblait partir de l'intérieur des broussailles. En vain, les deux voyageurs regardèrent partout, fouillant des yeux l'épaisseur des touffes de plantes folles au milieu desquelles ils se trouvaient engagés. Rien. Le silence. Un silence terrifiant régnait dans cette immense forêt. Douvel et Marianne s'étaient arrêtés, serrés l'un contre l'autre, n'osant plus faire un pas, de peur d'être attaqués à l'improviste. Tant que celui qu'ils considéraient comme l'ennemi avait été sous leurs yeux, ils s'étaient fiés à leur courage pour se défendre. Mais à présent que cet ennemi se dérobait, c'était l'imprévu qu'il fallait redouter. En présence du danger, Marianne retrouva ce courage dont elle avait donné tant de preuves en d'autres circonstances. « Avançons, » dit-elle à son mari, « il faut tâcher d'arriver à la lisière de cette forêt. Une fois sortis d'ici, nous aviserons sur le parti à prendre. Viens !» Et, passant la première, elle s'engagea dans les broussailles, s'écorchant sans se plaindre aux épines qui lui déchiraient les vêtements, aux branches qui lui cinglaient le visage. Stoïque, comme lorsqu'il se trouvait sur le pont du Glorieux, pendant que le navire brûlait, Douvel suivit silencieusement, traînant après lui la malle qui maintenant devenait un fardeau embarrassant. Pendant quelques minutes, la situation demeura la même. Puis il sembla aux voyageurs qu'ils allaient pouvoir se tirer enfin de ces obstacles qui s'étaient accumulés jusqu'ici devant eux. On arrivait en effet dans une sorte de clairière. Plusieurs troncs coupés à quelques pieds de terre semblaient indiquer que des voyageurs avaient précédemment campé en cet endroit. Douvel ne put retenir une exclamation de joie. Mais au même moment, la voix s'étrangla dans sa gorge. Il lâcha la malle et porta vivement les deux mains à son cou, où venait de s'enrouler une liane, lancée d'une main sûre, comme un lasso manié par les mains habiles des Indiens, chasseurs de chevaux sauvages. Loin de pouvoir se dégager, le lieutenant ne fit que s'empêtrer davantage dans d'autres lianes qui, successivement, étaient venues entourer ses bras et sa poitrine. Marianne s'était retournée à ce moment. Un cri de terreur et de désespoir sortit de sa bouche. Elle voulut se porter au secours de son mari, mais alors qu'elle allait l'atteindre, le ricanement déjà entendu la cloua sur place. Cette fois, elle vit celui qui riait ainsi, et tout son sang se figea dans ses veines. C'était Papaye. L'Indien, suspendu aux branches d'un mâpon, hissait à lui le lieutenant ligoté au moyen des lianes et à moitié étranglé. Douvel lança un regard à sa femme, un regard qui semblait dire, à la malheureuse, le dernier adieu de celui qui allait mourir. Marianne surmonta l'état d'anéantissement où l'avait plongé le terrible spectacle qu'elle avait sous les yeux. Éperdue, elle s'élança, les mains en avant pour s'accrocher aux jambes pendantes de son mari et empêcher que l'Indien ne put tirer à lui le double fardeau. Mais en vain espéra-t-elle parvenir à cela. Avant qu'elle ne fût arrivée auprès de Douvel, Papaye avait tendu les bras et de ses deux mains, empoignant avec une force d'Hercule le voyageur par les épaules, il le hissa jusqu'à lui et prestement il l'attacha à une branche du mâpon, le corps étendu, la face en l'air. Quand Douvel s'était senti saisi par le cou, il avait lâché en même temps le pistolet qu'il tenait d'une main et la malle qui traînait de l'autre, par l'une des courroies. Affolée, Marianne s'était jetée à genoux, non pour implorer l'Indien qu'elle savait ne pouvoir attendrir, mais pour élever son âme et demander à la Providence de sauver celui qui allait mourir sous ses yeux. À ce moment, le regard de Marianne rencontra l'un des pistolets de Douvel. Aussitôt, elle saisit l'arme qui se trouvait à portée de sa main, et se relevant d'un bond, elle visa l'Indien en criant à celui-ci. « Misérable lâche ! C'est Dieu, notre Dieu à nous, le Dieu des chrétiens, qui ne veut pas que tu puisses accomplir jusqu'au bout la trahison que tu avais préméditée depuis notre départ. Délivre celui que tu as fait prisonnier en employant une ruse infernale. Rends-moi mon mari, traître, ou bien je vais le délivrer moi-même en te tuant comme une bête féroce. » Et Marianne visait l'Indien qui, impassible sur le mâpon, la regardait les lèvres crispées par le même éternel sourire narquois. « Obéis !» lui crie la courageuse femme, résolue à mettre à exécution la menace qu'elle venait de faire. Mais sans répondre, l'Indien tira de sa ceinture le second pistolet que possédait Douvel et qu'il avait enlevé de la poche du voyageur quand le corps de celui-ci était arrivé, ligoté, sur la branche du mâpon. Papaye, à son tour, visa Marianne. C'était un duel, et le premier qui tirerait pouvait avoir une chance de se débarrasser de son adversaire. Pendant quelques secondes, les deux pistolets demeurèrent dirigés ainsi que nous l'avons dit. Puis, Marianne abaissa son arme. Elle avait réfléchi quelle morte s'en était fait du lieutenant. Elle voulait vivre pour lutter jusqu'au bout, décidée à succomber à son tour quand son mari ne serait plus. L'Indien imita Marianne. Il leva le canon du pistolet, comme fait le cavalier en vedette qui craint d'être surpris. Et s'adressant à la jeune femme, « Papa, il ne veut pas tuer, » dit-il. « Le grand esprit ne demande pas de sang. Il veut de l'or et de l'argent comme offrande. Papaye obéira au grand esprit. » Tout en parlant, l'Indien s'était laissé glisser sur une branche basse. Avec l'agilité d'un singe, il sauta à terre, fit des bonds successifs sur lui-même, tournant tout autour de Marianne. Et saisissant le moment favorable, il s'élança sur la jeune femme, l'enlaça dans ses bras avant qu'elle eût eu le temps de se reconnaître. Marianne se trouva tout à coup désarmée du pistolet qu'elle tenait à la main un instant auparavant. Papaye était arrivé à ses fins. Il leva, d'un air triomphant, les deux pistolets au-dessus de sa tête. Et sans perdre un instant, il saisit la malle par les courroies et la chargea sur ses puissantes épaules. Mais au moment où il prenait son élan pour aller mettre le trésor en lieu sûr, les deux mains de Marianne s'accrochèrent à lui et l'arrêtèrent sur le cou. La jeune femme avait trouvé la force surhumaine que donnent le désespoir et la rage. L'Indien fit volte-face, laissant tomber la malle à ses pieds, et avec des ondulations de serpent, il se glissa par terre, rampa, se tordit, et finalement s'élança sur la jeune femme, qui, comme rivée au sol, s'était laissée traîner pendant toutes les évolutions du guide. Papaye tenait Marianne à bras le corps et l'étreignait étroitement, provoquant chez sa victime une sensation d'horreur. Dans cette lutte de l'homme fort et adroit contre une créature faible et qui n'avait à opposer que son indomptable courage, le dénouement ne pouvait être douteux. Marianne le comprit. C'était pour elle, sinon la mort immédiate, du moins quelque chose d'aussi épouvantable. L'esclavage dans quelque tribu où elle deviendrait le jouet d'un chef. Cette idée terrifia la malheureuse. Elle comprit que mieux valait succomber en se défendant que de s'abandonner vaincue au misérable qui la tenait dans ses bras vigoureux. À ce moment, le désespoir suggéra à Marianne la pensée de se servir du poignard qu'elle avait pris à Douvel. L'arme était, on le sait, dans son corsage. Pour la tirer de là, il eût fallu avoir les mains libres, et l'Indien, employant le procédé des lutteurs de profession, avait tout d'abord fait en sorte de paralyser les mouvements de son adversaire. Comment parvenir à se dégager? Marianne pensa à ce moyen qui consiste à feindre de se rendre à discrétion, afin de profiter, aussitôt libre, d'un instant de répit qu'accorderait peut-être l'Indien. Elle prononça d'une voix suppliante, éteinte et comme épuisée par la lutte qu'elle venait de soutenir.
« Grâce, je demande pitié. Prenez cette malle et tout ce qu'elle contient, mais épargnez-nous. »
L'Indien eut un moment d'hésitation. Il s'était fait une toute autre idée du courage et de la résolution de la jeune femme. Cette soumission si subite l'étonnait. En homme rusé qu'il était, il voulut se rendre compte de sa sincérité en regardant le visage et les yeux de celle qui se rendait ainsi. Certain, du reste, de pouvoir ressaisir sa victime quand il le voudrait, maintenant qu'il croyait l'avoir complètement désarmée, il ouvrit les bras. Prompte à se rejeter en arrière, Marianne fit un bond qui la débarrassa brusquement de l'étreinte dont elle venait d'être l'objet. Puis, sans perdre une seconde, elle plongea la main dans son corsage, saisit le manche du poignard, et brandissant l'arme, « Ah, traître ! » s'écria-t-elle en s'adressant à l'Indien. « Maintenant, tu me rendras la liberté. » Comme papa s'était débarrassé des pistolets en jetant les armes dans les broussailles, il voulut s'en emparer de nouveau. Mais Marianne avait saisi le mouvement. Elle courut se placer résolument entre le guide et la touffe de broussailles vers laquelle il allait s'élancer. Papaye avait déjà pris son élan. Il vint tomber le corps en avant sur le poignard qu'il n'avait pu éviter à temps. Aussitôt qu'il s'était senti enferré, l'Indien avait fait un bond de tigre pour prendre champ. La blessure n'avait fait que déchirer la peau. Le guide poussa un ricanement diabolique en s'écriant « La peau de papaye est dure. Il faut la percer profondément pour atteindre le cœur. Ton poignard sera à moi en moins de temps que tu n'as mis à le tirer de ton corsage. » Il voulut s'élancer de nouveau. Marianne recommanda son âme à Dieu. Elle se sentait perdue. Mais tout à coup, l'Indien s'affaissa et vint rouler à ses pieds en poussant des cris de douleur, de même que le lion blessé à mort fait retentir le désert de ses rugissements d'agonie. Marianne tremblait à présent à ce spectacle si imprévu, si terrible. Papaye se tordait dans d'horribles convulsions. Sa figure se décomposait rapidement. Il semblait que ses yeux, qui lançaient des flammes, allait jaillir hors des orbites. C'était une agonie terrifiante. Marianne, affolée, voulut fuir. Le mourant rampa après elle, étendant les bras comme s'il eût voulu, dans un effort désespéré, la saisir, l'étreindre, la broyer contre sa poitrine, d'où sortait le râle sifflant qui présage la mort. Et dans sa terreur, la jeune femme ne trouva plus à ce moment la faculté de détacher ses pieds du sol. Elle demeura immobile. Les mains crispées de l'Indien s'approchaient. Encore un effort, et cet agonisant s'emparerait de sa victime et l'étreindrait dans ses bras. Soudain, papa y fit un bond, comme si la vie lui fût subitement revenue et qu'il eût surmonté la période aiguë d'une crise épileptique. Et tournoyant sur lui-même, il s'affaissa, la face tournée vers le ciel. Une écume sanglante lui vint aux lèvres. Ses yeux demeurèrent fixes. Un son rauque sortit de sa gorge. Puis il demeura immobile. Papaye venait d'expirer, le poignard était empoisonné. Quand Marianne n'eut plus qu'un cadavre devant ses yeux, une violente réaction se produisit en elle. Cette liberté qu'elle avait reconquise d'une façon pour ainsi dire miraculeuse, elle voulut la mettre aussitôt à profit. Il lui sembla qu'elle aurait à peine le temps de procéder à la délivrance de son mari que quelque événement imprévu allait se produire qui l'en empêcherait. Promptement, elle se dirigea vers l'arbre où, ligoté et à demi étranglé, le lieutenant était dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement, de pousser le moindre cri. Le malheureux Douvel était toutefois placé de telle façon qu'il n'avait pas perdu un seul détail du drame terrible qui venait de se dérouler à quelques pas de lui. Il avait, cet homme qui se voyait condamné à une mort horrible, il avait passé par mille transes. 100 fois pendant la lutte entre Marianne et l'Indien, et plus tard, durant que papa y agonisait, Douvel avait demandé à Dieu de faire un miracle. Et quand il avait vu le guide mort, un long tressaillement avait agité son corps. Il avait fait un suprême effort pour pousser une exclamation, mais il n'avait réussi à arracher de sa gorge en feu qu'un son faible comme un gémissement étouffé. C'est alors que Marianne s'était élancée à son secours. « Courage ! Courage, mon ami ! » s'écriait la jeune femme qui faisait des efforts inouïs pour se hisser sur la branche de l'arbre. Elle s'était accrochée successivement à toutes les rugosités de l'écorce du mâpon, ne pouvant embrasser le tronc noueux de l'arbre géant. Ce ne fut qu'après plusieurs minutes d'une gymnastique à laquelle elle s'essayait pour la première fois que la femme du lieutenant put arriver à se placer sur la branche, à l'endroit où celle-ci se soudait au tronc. Et là, arc-boutée, se tenant le mieux qu'elle pouvait en équilibre, elle se mit en devoir de délivrer son mari. Pour cela, elle avait le poignard sur la lame duquel l'Indien était venu se précipiter et se faire la blessure mortelle à laquelle il avait succombé. Maintenant qu'elle savait l'arme empoisonnée, elle ne s'en servait qu'avec une extrême prudence. Néanmoins, elle parvint, après bien des efforts, à avoir raison des liens végétaux qu'avait employé Papaye pour attacher solidement son prisonnier à la branche du mâpon. Mais à présent, le plus pressé était de couper les lianes qui ligotaient Douvel. Elle ne pouvait se servir du poignard, sachant que la moindre piqûre provoquerait un dénouement fatal. Cependant, il fallait redonner du jeu à la respiration du patient, laquelle se faisait de plus en plus pénible. Marianne n'hésita pas, et résolument, elle attaqua à coups de dents les lianes dures, dont l'écorce était parsemée d'imperceptibles épines qui lui faisait aux lèvres et aux gencives des myriades de blessures. Elle s'acharna à ce travail lent, difficile, qu'il lui fallut abandonner par instant pour le reprendre presque aussitôt. Et cela dura près d'une mortelle heure, pendant laquelle l'imagination de Marianne enfantait toute espèce de projet pour la fuite qui s'imposait aux voyageurs. Elle comprenait qu'elle n'avait conjuré un danger que pour tomber peut-être dans un nouveau péril. Toutefois, elle gardait en elle les terribles pressentiments qui venaient l'assaillir. Ce n'était pas, pensait-elle, le moment de plonger l'esprit de celui qu'elle parvenait à délivrer à grand-peine dans de nouvelles et terribles préoccupations. Mais ce fut Douvel lui-même qui aborda ce douloureux sujet. À peine eut-il retrouvé l'usage de la parole qu'il s'écria. « Marianne, c'est encore à toi qu'en ce moment, je dois d'avoir échappé à une mort épouvantable. C'est toi, toujours toi, que je retrouve quand un danger me menace, quand la mort semble imminente pour moi. Et alors que je voudrais, ô ma bien-aimée, te remercier, te presser dans mes bras, pouvoir te donner en guise de reconnaissance éternelle un bonheur de chaque jour, il me faut te dire qu'en me sauvant, qu'en te délivrant toi-même avec un courage héroïque, tu n'as fait que retarder de peu de temps sans doute le dénouement fatal qui nous menace. » « Je sais, je comprends, » répondit simplement la jeune femme. « Tu sais que privés de guide, nous marcherons au hasard dans cette forêt. Dieu nous guidera. » Pour mettre à exécution son projet criminel, papa nous a entraînés sans doute bien loin de la route que nous devions suivre. Au lieu de nous diriger vers l'endroit où nous pourrions rencontrer les armées américaines et les troupes du général Lafayette, peut-être allons-nous donner en plein dans les corps d'armée des généraux anglais. Et ce serait peut-être encore ce qui pourrait nous arriver de plus heureux. « Oui, » articula Marianne. « Tu comprends aussi que nous pouvons être surpris en route. Par des Sioux, peut-être aussi par d'autres sauvages. Papaye, pour commettre son crime en toute sécurité, nous aura conduit vraisemblablement à proximité d'un campement où ceux de sa tribu devaient l'attendre. « C'est ma conviction, » dit Marianne, et baissant la voix pour dissimuler l'émotion qu'elle éprouvait. « Quand les Indiens, les frères de Papaye, » ajouta-t-elle, « ne verront pas revenir celui-ci, ils se mettront à sa recherche. Ils passeront par cette forêt, ils découvriront le corps du guide. Il faut donc enterrer au plus tôt le cadavre, » interrompit Douvel, qui, rendu à présent à la liberté complète de ses mouvements, voulait se mettre aussitôt à la sinistre besogne. Qu'importe que nous fassions disparaître ce corps. Les Indiens retrouveront nos traces avec la même subtilité que mettent les chiens de chasse à poursuivre le lièvre dont ils viennent de flairer la trace. Alors tu supposes que nous sommes perdus. Si nous mourons, mon ami, c'est que nous devons succomber ensemble. C'est que notre destinée commune est écrite là-haut. Et dans ce cas, nous n'avons plus qu'à nous confier à la Providence. Du reste, quoi qu'il doive nous arriver, il est impossible que nous demeurions plus longtemps dans cette forêt. « C'est mon avis. Alors, mettons-nous en marche cette nuit même, » insista Marianne. Les deux voyageurs cherchaient à présent à se rassurer l'un l'autre. Marianne faisait preuve de cette énergie dont le lieutenant avait pu juger dans les circonstances dramatiques que nous avons racontées. Cette fois, les dangers à courir étaient plus sérieux encore que ceux dont on avait été menacés jusque-là. Cette marche dans les ténèbres, au milieu d'une forêt où les obstacles semblaient se multiplier à chaque pas, était bien une des épreuves les plus terribles que les voyageurs eussent pu redouter. Outre la présence de reptiles chassant de nuit dans ces inextricables broussailles, on pouvait d'un moment à l'autre tomber en plein campement indien. Si pareille mésaventure arrivait, que pourraient faire les deux malheureux voyageurs? Comment fuir? Et si même ils parvenaient à sortir de la forêt, ne seraient-ils pas obligés de parcourir l'immense plaine qui s'étendait à perte de vue jusqu'à un horizon de montagnes rocheuses? Une fois engagés dans les grandes herbes, ils risqueraient à chaque instant d'être aperçus par l'ennemi qu'ils avaient à redouter, quel qu'il fût, homme, reptile ou fauve. C'était l'inconnu terrible, menaçant, qui s'ouvrait devant eux. Cet inconnu qui vous met aux prises avec de continuelles appréhensions, avec des angoisses se renouvelant sans cesse. Et cependant, ni l'un ni l'autre ne se plaignaient. Décidés à ne pas survivre au lieutenant s'il arrivait malheur à celui-ci, Marianne acceptait stoïquement la terrible perspective qui s'ouvrait devant elle. Quant à Douvel, il était résolu à défendre chèrement sa vie et celle de sa compagne. Donc, après avoir passé quelques instants à se concerter et à se remettre des émotions récemment subies, ce fut Marianne qui entama la conversation. Elle parlait à voix basse comme si elle eût eu peur de voir se dessiner une forme humaine derrière chacun de ces troncs d'arbres qui les environnaient. Mon ami, murmura-t-elle, nous n'avons plus qu'à remettre notre sort entre les mains de Dieu. Si notre destinée est de succomber, nous périrons ensemble, de la même mort.
Mourir ? Tu parles de mourir quand nous avions devant nous toute une existence de bonheur ?
Mourir, quand chaque jour grandit ma tendresse pour toi. Reprenons courage, au contraire. Nous sortirons de l'épreuve à laquelle le destin nous soumet en ce moment. Nous retournerons en France, et je réparerai, grâce à toi, ma bien-aimée, la faute que j'ai commise. Oui, je retrouverai notre enfant, qui aura en toi une mère pleine de sollicitude et de tendresse.
Une mère, oui. Puis elle ajouta dans un murmure, une mère repentante.
Allons, fit tout à coup Douvel pour mettre fin à l'impression que ses paroles avaient provoquée chez Marianne. Il faut se décider à nous remettre en route. Pendant la scène qui avait précédé, les deux époux avaient complètement oublié la valise contenant toute leur fortune réalisée. À ce moment, le lieutenant se souvint.
La malle, dit-il d'un ton indiquant l'inquiétude dont il était saisi.
Je l'ai arrachée au voleur qui voulait l'enlever, répondit Marianne.
Elle est là.
Et elle indiquait de la main la touffe de broussailles où papa y avait lancé la malle en se débattant contre la jeune femme. Mais pour arriver à entrer en possession de l'objet, il fallait passer devant le corps de l'Indien, étendu la face tournée vers le ciel. Marianne eut un tressaillement. Elle était prise de terreur en pensant qu'elle allait avoir à passer près de ce cadavre aux membres contractés par les convulsions de l'agonie qu'avait subi le misérable. Douvel s'aperçut de l'effet d'horreur que la vue du corps, même aperçu à distance, produisait sur sa femme.
« Attends-moi, » dit-il.
Et passant rapidement devant le cadavre, le lieutenant éteignit la broussaille. Marianne s'était reculée de quelques pas. Elle s'assit sur un morceau de rocher adossé à un tronc de mâpon que des lianes entrelacées recouvraient d'une sorte de cotte de mailles végétales. Elle gardait le silence, attentive à écouter le bruit provenant de la broussaille où son mari se trouvait engagé jusqu'à mi-corps. À présent qu'elle se trouvait seule, Marianne pouvait s'abandonner au désespoir dont elle dissimulait la violence à son mari. Elle avait désapprouvé ce voyage, mais elle s'était rendue au désir de Douvel. Et maintenant que les événements se précipitaient vers un dénouement fatal, la jeune femme se fût bien gardée de formuler un reproche, voire même de laisser paraître sur son visage le moindre signe de mécontentement. Elle réservait la manifestation de ses transes pour les rares instants où elle ne se trouvait pas sous les regards de Douvel. Et c'était le cas à présent. Marianne laissa s'échapper de sa poitrine un long soupir qui ressemblait à un gémissement étouffé. Elle leva ses yeux au ciel comme pour prendre Dieu à témoin des souffrances morales qu'elle subissait secrètement. Puis, s'apaisant tout d'un coup et revenant aux tristes réalités, elle se disait que tout ce qui lui arrivait était inouï, qu'il n'était pas possible que la fatalité s'acharnât ainsi sur elle. Elle se disait que son imagination lui faisait voir la situation beaucoup plus grave qu'elle ne l'était réellement. Elle cherchait à se persuader que le voyage pourrait s'accomplir, qu'en sortant de la forêt, elle et son mari arriveraient au jour dans la prairie. Elle se disait que d'autres voyageurs devaient parcourir le même chemin, ne fût-ce que les recrues levées dans les provinces du Sud, qui rejoignaient les troupes de Washington. Elle se berçait de l'espoir qu'on allait rencontrer du monde, que le lieutenant, parlant l'anglais et l'espagnol, s'aboucherait avec les personnes rencontrées et que l'on pourrait ainsi atteindre la Virginie. Marianne avait tenu le compte des jours écoulés depuis que l'on s'était mis en route avec le guide, et elle supposait que l'on devait avoir parcouru déjà une assez longue distance, qu'il se pouvait que l'on ne fût pas très éloigné de la province où l'on voulait se rendre. S'il en était ainsi, il y avait à supposer que l'on rencontrerait du monde dans la prairie, ne fût-ce que des chasseurs de chevaux sauvages. En outre, une pensée vint rassurer un peu la jeune femme qui se livrait ainsi aux réflexions les plus diverses. C'est que Papaye avait été seul à deviner que les voyageurs qu'il guidait emportaient avec eux de fortes sommes. Or, Papaye n'était plus. Si par hasard on rencontrait des Indiens amis des Français ou simplement ralliés au mouvement insurrectionnel dirigé par Washington et les autres généraux américains, ces hommes, croyant avoir affaire à des voyageurs pauvres, ne se laisseraient pas tenter par des idées de vol. Donc, il ne fallait pas s'abandonner au désespoir et perdre toute confiance d'arriver en Virginie. Et Marianne s'accrochait à ce vague espoir. Pauvre femme, elle cherchait à ramener un peu de calme dans ses esprits. Mais hélas, les appréhensions revenaient bientôt, et avec elles les agitations, les idées affolantes, se succédant tumultueusement. Soudain, Marianne fit un soubresaut. Elle voulut pousser un cri d'alarme, un appel au secours désespéré, qui fut allé frapper les oreilles du lieutenant, mais la voix s'étouffa dans sa gorge serrée. Une main puissante entourait son cou, tandis qu'une autre main s'appuyait sur sa bouche comme un bâillon fermant hermétiquement ses lèvres. Marianne avait été surprise et attaquée par derrière. Elle se trouvait saisie de telle sorte qu'il lui était absolument impossible de faire le moindre mouvement pour se dégager de l'étreinte qu'elle subissait. Après ce premier moment de terreur, la malheureuse se rendit compte de sa terrible situation. Tout d'abord, elle s'était crue attaquée par un serpent qui se serait enroulé autour de son cou et de son visage. Mais bientôt, à l'horreur que lui inspirait le contact supposé d'un reptile, succéda l'effroi, l'épouvante. Ses yeux effarés venaient de rencontrer deux yeux brillants, fixés sur elle, avec des lueurs et des scintillements, comme en projettent les regards des félins. Éclairée par ses yeux menaçants, une face noire bariolée de rouge et d'ocre se dessina, grimaçant un sourire qui découvrait des dents aiguës. Un sourire cruel, pronostiquant les plus criminels desseins de la part de celui qui tenait la jeune femme en son pouvoir. C'était un Indien de la tribu des Sioux qui avait pénétré dans la forêt, conduit par son flair de sauvage. Il faisait partie d'un détachement qui allait rejoindre un des corps de l'armée anglaise à laquelle les Sioux servaient d'éclaireur. Papaï s'était laissé jouer par des adversaires plus habiles que lui, et tandis qu'il s'acharnait à s'emparer de la malle contenant la fortune de voyageurs qu'il avait trahis, les Sioux se dirigeaient en rampant vers la forêt. C'était l'un d'eux qui, lancé en avant à la découverte, s'était glissé dans les broussailles jusqu'à l'endroit où Marianne, assise, attendait que son mari retrouvait la malle. Le Sioux avait procédé avec la plus grande prudence pour surprendre sa victime. C'est avec des précautions infinies qu'il était parvenu à s'accroupir derrière le tronc du mapon, sans faire le moindre bruit qui pût révéler à la jeune femme la présence d'un ennemi. Et il avait attendu le moment propice, voulant, par une attaque brusque et combinée d'avance, empêcher que la victime pût pousser le moindre cri, exhaler la plus faible plainte. Il avait réussi. Tout cela n'avait duré que quelques secondes. Marianne, une fois saisie, fut renversée. Il s'agissait maintenant pour le Sioux d'emporter sa proie. C'était la chose la plus difficile à exécuter, car en se débattant, la victime allait infailliblement s'accrocher aux broussailles, et il s'ensuivrait des bruits de plantes froissées, piétinées, qui éveilleraient l'attention du compagnon de l'infortuné, peut-être du guide. Aussi, certain que sa proie ne pouvait plus lui échapper, le Sioux jugea qu'il pouvait faire au sien le signal qui devait leur apprendre le résultat obtenu. L'Indien siffla par quatre fois, alternant le sifflement du boa constrictor avec celui du serpent corail. Aussitôt des ombres se dessinèrent dans la forêt, envahies par plusieurs endroits à la fois. Les Sioux se glissaient silencieusement d'un tronc d'arbre à un autre, comme des fantômes. Ils avançaient de façon à pouvoir, sans être aperçus, entourer l'endroit où ils supposaient que devaient se trouver les voyageurs. En quelques instants, ils eurent pris position tout autour de la clairière et attendirent pour s'élancer que leur chef leur eût donné le signal de l'attaque. Un cri guttural les prévint bientôt. En quelques bonds, les plus rapprochés de la clairière arrivèrent auprès du lieutenant, le maintinrent et le garrottèrent solidement au moyen de lianes avant qu'il eût pu se reconnaître. Douvel était prisonnier, et cette fois le malheureux n'avait même pas la suprême consolation de savoir que Marianne partageait son sort. Il avait fouillé la clairière du regard, cherchant à se rendre compte de ce qu'avait pu devenir la jeune femme. Il ne vit que des Sioux envahissant la forêt. La troupe d'Indiens s'était divisée en deux détachements, dont l'un s'était chargé du prisonnier, tandis que l'autre entourait le cadavre de Papaï. Douvel put voir que ses hommes dansaient autour du corps étendu sur la mousse. Ils tournoyaient sur eux-mêmes en frappant des mains et en chantant un chant de triomphe. Par moments, ils s'arrêtaient pour cracher tous ensemble sur le cadavre en signe du mépris qu'ils avaient pour la tribu à laquelle le mort avait appartenu. Puis la danse recommençait avec son accompagnement de chants et de cris. Le lieutenant voulut appeler Marianne, mais à peine avait-il entrouvert les lèvres que 20 Tomahawks se levaient en même temps sur sa tête. Et le chef lui dit en mauvais anglais « Silence ! Tu es notre prisonnier !» Si tu ne te soumets pas, si tu pousses le moindre cri, tu ne seras plus qu'un cadavre que nous abandonnerons aux serpents sacrés et aux haras qui auront faim en se réveillant. » Après avoir prononcé ces menaces, le chef donna le signal du départ. Douvel avait été mis, ainsi que nous l'avons dit, dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement. Deux Sioux le chargèrent sur leurs épaules, l'un le tenant par le dos, l'autre par les jambes. C'est ainsi que le mari de Marianne fut emporté hors de la forêt, ignorant le sort que sa malheureuse compagne avait pu subir depuis leur brusque séparation. Douvel écumait de rage. Le sang lui avait afflué vers le cerveau et le rendait fou. Il cria en dépit de la défense que lui avait faite le chef. Aussitôt, un coup de lance de flèche le piqua au rein. Un second cri lui échappa, et cette fois, le lieutenant retrouvant toute son énergie pour stigmatiser ceux qui le traitaient aussi cruellement, s'écria « Lâche ! Vous êtes des lâches qui vous mettez 20 furieux contre un homme ! Lâche aussi ceux qui se sont sans doute rués contre une femme sans défense !» Et s'exaltant à l'idée des tortures qu'on faisait peut-être endurer à Marianne, Douvel continua d'une voix forte. « Qu'avez-vous fait de celle qui m'accompagnait ? Réunissez-nous, afin qu'au moins, puisque nous sommes tombés entre les mains de lâches et de misérables assassins, nous puissions partager le même sort. Vous pouvez nous tuer ensemble, l'un devant l'autre, » ajouta-t-il, arrivant au paroxysme de la fureur. « Vous ne nous entendrez pas pousser une plainte. Vous comprendrez peut-être alors la différence qu'il y a entre ceux qui savent mourir bravement comme des soldats et ceux qui se mettent 20 pour assassiner 2 personnes sans armes. » Le chef avait entendu ces paroles. « Vous vous êtes mis 2, » riposta-t-il dans son jargon, « pour assassiner le guide. Et vous avez bien fait. Il faut tuer l'ennemi, et je te félicite d'avoir renversé papaye à tes pieds. Tu as été plus prompte que nous. Il y avait déjà longtemps que nous le guettions. Et c'est toi qui lui as fait mordre la terre. » Puis après un silence, « Nous te reconnaissons brave et utile, puisque tu nous as débarrassé d'un chien, tuant papaye. Nous allons donc te traiter comme un homme. » Et sur l'ordre du chef, ceux qui portaient le lieutenant lui firent prendre pied. Mais on se garda bien de débarrasser le prisonnier des liens qui paralysaient les mouvements de ses bras. On se contenta de donner la liberté aux jambes. Douvel fut gardé à vue entre 2 files de sioux qui, la flèche en main, se tenaient continuellement sur la défensive, prêts à transpercer le prisonnier à la moindre tentative qu'il ferait, soit pour attaquer, soit pour prendre la fuite. Par une nuit étoilée, les sioux s'étaient remis en marche, laissant en arrière-garde ceux des leurs qui dansaient autour du cadavre de papaye. C'est à ces derniers que devait se joindre celui qui avait fait Marianne prisonnière. Or, pendant que Douvel était entraîné à travers la plaine aux hautes herbes, Marianne passait, elle aussi, par une série d'épreuves et de sévices sans nom. Tout d'abord, nous avons dit que la malheureuse femme avait perdu la tête, qu'arrivée au degré de désespoir au-delà duquel il n'y avait plus que la folie, elle avait été emportée comme une masse, n'opposant que la résistance instinctive de la victime qui se débat désespérément. Le Sioux ayant donné le signal, et certain désormais que personne ne viendrait au secours de celle qui était devenue sa proie, le Sioux déposa son fardeau entre 2 rochers, tapissés de mousse visqueuse, indiquant qu'une source passait dans les environs, et que parfois ses eaux grossies venaient couler sur les rochers. L'Indien s'assit à côté de sa prisonnière. À la clarté de la lune dont les rayons d'argent filtraient à travers les branches feuillues, il contempla le visage de la jeune femme. Marianne avait en ce moment la sauvage beauté que les anciens prêtaient à Némésis, la déesse de la vengeance. Les traits convulsés de la jeune femme étaient empreints d'une expression de fureur. Ses yeux, grands ouverts, autant par le serrement que subissait le coup que par la colère, avaient cette flamme qui dénote une énergie virile. La bouche contractée se frangeait d'une écume sanguinolente, comme si dans cette poitrine prise dans des liens, quelques vaisseaux sanguins se fût rompu pendant les efforts qu'avait fait la prisonnière pour crier et appeler au secours. Marianne ne songeait plus maintenant à obtenir sa délivrance. Le regard méprisant qu'elle décrocha à l'Indien qui la couvait des yeux disait aux Sioux que celle qu'il croyait terrifiée était désormais résignée à son sort. Mais un ricanement échappé aux lèvres crispées du sauvage s'égrena aux oreilles de la victime et fit passer un frisson dans ses veines. Ce rire de sauvage était l'annonce que la passion brutale s'éveillait chez le Sioux à la vue de sa prisonnière. L'Indien s'agenouilla devant Marianne et approcha sa face peinturlurée du visage de la jeune femme. Celle-ci se rejeta en arrière par un brusque mouvement dont la violence parvint à briser l'une des lianes qui paralysait l'action des bras. Elle avait une main libre, enfin. Elle ne perdit pas de temps pour aller chercher le poignard dont elle avait replacé la lame dans sa gaine, ce même poignard empoisonné sur lequel papa y était venu, on s'en souvient, s'enferrer lui-même. Et la courageuse femme était à présent bien décidée à se défendre. Brandissant le poignard, elle menaça le Sioux, qui, à la vue de l'arme, se releva d'un bond en poussant un cri de surprise. Marianne profita de ce moment pour couper les lianes qu'entourait son autre bras. Puis elle se dégagea le cou, respirant bruyamment pour renouveler l'air rarifié dans ses poumons. Et bondissant à son tour, elle se trouva sur ses pieds, prêt à se défendre contre l'attaque imminente de l'Indien. Le Sioux, en effet, revenu de sa stupéfaction, avait placé une flèche à son arc et visait la prisonnière. Marianne tressaillit. Elle comprenait à cet instant de péril extrême que le moindre mouvement qu'elle pourrait faire serait le signal de sa mort. L'Indien ne se laisserait pas surprendre, habitué à se tenir, comme tous les siens, continuellement sur la défensive. Elle se résigna donc à abaisser son arme, témoignant par là de son désir de se soumettre. Mais l'Indien avait pris l'éveil. Il ne lui suffisait plus que la prisonnière se rendît à discrétion. La prudence commandait qu'elle fût en outre désarmée et mise par là dans l'impossibilité absolue de se livrer à des velléités belliqueuses. Un bond suffit aux Sioux pour arriver jusqu'à elle. Avec une dextérité surprenante, il paralysa les mouvements de la jeune femme, lui arracha le poignard. Et brandissant l'arme d'un air triomphant, il se mit à danser en pirouettant tout autour de la prisonnière, faisant passer la lame empoisonnée du poignard, tantôt à quelques lignes du visage, tantôt tout près du sein de la jeune femme terrifiée, muette de stupeur et d'épouvante. Elle n'osait plus faire un mouvement, sachant à quel danger elle s'exposerait si elle était simplement effleurée par le poignard. Aussi l'Indien profita-t-il de l'immobilité de sa prisonnière pour s'emparer d'elle sans cette fois rencontrer de résistance de sa part. « C'est bien, » dit-il. « La femme pâle se soumet. J'aime mieux cela que d'avoir à la tuer. » Et en parlant ainsi, le Sioux caressait de la paume de sa main la chevelure de Marianne, laquelle, mise en désordre pendant l'assaut qu'avait subi celle-ci, flottait dénouée sur les épaules. Marianne frissonna au contact de la main du sauvage. Mais l'Indien lui dit « La femme pâle est belle, et sa chevelure est longue. Le chef aime les femmes belles et les longues chevelures. » Il saisit la prisonnière par les épaules et l'entraîna vers les rochers. Se sentant toujours menacée, Marianne suivit le Sioux. C'était le martyr qui commençait pour elle. Elle se résigna à vivre, espérant qu'on la réunirait à son mari. Son indomptable énergie ne se démentit pas pendant l'épreuve qu'elle traversait. Elle reconnaissait que toute résistance était inutile et que désormais elle avait tout intérêt de feindre la soumission. Quelque répugnance qu'elle éprouva à parler à l'Indien, elle se décida à l'interroger. « Qu'avez-vous fait de l'homme pâle ? » demanda-t-elle, imitant la façon de parler du Sioux. L'Indien ricana, puis il répondit « L'homme pâle est au pouvoir des Sioux, et nous allons les rejoindre. » Marianne éprouva une sensation de joie à l'espoir qu'elle reverrait Douvel, qu'elle serait réunie à lui et qu'elle partagerait son sort, quel qu'il fût. « Partons tout de suite alors, » dit-elle, oubliant à qui elle s'adressait. Et comme elle faisait signe de s'élancer, le Sioux la retint vigoureusement auprès de lui en disant « Pas encore. Nous partirons quand le serpent sacré aura sifflé par trois fois. Ce sera signe que l'homme pâle se sera soumis. Sinon, c'est la rade et Omapon qui criera une seule fois, et alors je tuerai la femme pâle, et sa chevelure ira orner la ceinture du chef à côté de l'autre. » Marianne comprit et son cœur se serra. Un frisson parcourut ses veines. Qu'allait-elle entendre? Serait-ce le sifflement du serpent ou le cri assourdissant de la rade? Chaque seconde qui s'écoulait voyait s'augmenter les transes de la prisonnière. Le moindre bruit des feuilles qu'agitait le vent la faisait tressauter. Et la malheureuse était prête à défaillir sous les regards que l'Indien ne détachait plus du visage de sa victime, comme s'il eût voulu jouir de l'angoisse dont elle lui donnait le spectacle. Sous ce regard où il y avait à la fois de la cruauté et de l'ironie, Marianne courbait le front, accablée, vaincue, n'ayant plus d'espoir que dans un miracle. Elle ne redoutait pas la mort pour elle. 100 fois, elle avait eu la pensée de se précipiter sur son bourreau, de lui tenailler les yeux avec ses ongles, afin que le Sioux ne la ménageât plus, et que d'un coup de poignard, il l'envoyât rouler à ses pieds, foudroyée comme l'avait été Papaye. Mais elle avait pensé à Douvel, au désespoir qu'il devait éprouver, et elle s'était résignée à vivre. C'est pour son mari qu'elle redoutait le dénouement fatal, quand, après avoir entendu la sinistre confidence de l'Indien, elle passait par toutes les phases de la terreur et de l'angoisse. Soudain, pendant qu'elle écoutait tous les bruits vagues qu'on perçoit, la nuit, dans les solitudes immenses, un vacarme épouvantable, partant de la forêt, vint subitement la distraire de la mortelle préoccupation qui l'assaillait sans relâche. C'étaient les Indiens qui, après avoir suffisamment chanté et dansé autour du corps de Papaye, venaient rejoindre le Sioux qu'ils savaient occupé à garder la prisonnière. Ils n'avaient pas voulu abandonner le corps de l'ennemi mort. Avec un raffinement inspiré par leur haine pour la tribu à laquelle avait appartenu le guide trépassé, les Sioux mirent le cadavre debout, le soutenant pour cela par-dessous les bras, tandis qu'un des leurs, s'étant glissé entre les jambes du mort, faisait avancer le corps rigide. C'était cette procession qui s'avançait au milieu d'un vacarme de cris, de rires et d'imprécations à l'adresse du mort. Quand les Indiens furent arrivés devant le groupe formé par Marianne et son gardien, les Sioux qui ouvraient la marche démasquèrent ceux qui tenaient le cadavre. Et Marianne se trouva en face du guide, de ce papaï grimaçant son hideux sourire, de papaï les yeux grands ouverts et fixes, comme s'il eût ressuscité pour venir lui reprocher de l'avoir tué. Marianne voulut reculer, fuir ce spectacle qui la glaçait d'horreur. Mais son bourreau la maintint le visage tourné vers le cadavre. Lentement, la procession avançait. Le corps, porté et poussé à la fois, avait des vacillements qui pouvaient faire croire qu'il allait tomber d'un côté ou de l'autre. Et toujours les Sioux, en veine de lugubres plaisanteries, avançaient leurs hideux jouets. Tout à coup, le cadavre, lâché par toutes les mains qui le retenaient et poussé brusquement, tomba la face en avant sur la prisonnière dont on avait à dessein paralysé les mouvements. Et le visage grimaçant et glacé du cadavre vint s'appuyer sur la face blême, crispée d'horreur de l'infortunée Marianne. Et la malheureuse martyre sentit les traits glacés toucher sa chair frémissante. Un cri d'effroi jaillit de sa gorge. Un cri disant l'horreur, l'épouvante, la peur. Un cri de détresse lancé vers l'être suprême et auquel répondirent les sinistres ricanements, les chants, les exclamations de joie des Sioux. En vain Marianne voulut-elle s'arracher des bras qui la retenaient pour repousser ce cadavre qui semblait la poursuivre, la chercher pour le hideux contact. En vain supplia-t-elle qu'on lui fît grâce, qu'on mît fin à cette torture sans nom. Les Sioux s'acharnaient, excités par l'effet qu'ils avaient obtenu et qui dépassait tout ce qu'ils avaient espéré de succès pour leur infernale invention. Chaque fois que leur victime trouvait la force de pousser un cri, les Indiens recommençaient à applaudir avec fureur, s'exaltant à ce spectacle hideux. Cette scène devait avoir bientôt un dénouement inattendu. Quand elle eut épuisé ses forces à supplier et à crier, Marianne demeura pendant quelques secondes comme anéantie. Il sembla qu'elle n'avait plus conscience du supplice qu'elle subissait. Était-ce la folie? On eût pu le croire à voir ses yeux fixes. Tout à coup, la malheureuse poussa un cri terrible, et son corps s'affaissa, inerte, dans les bras de ses bourreaux.
Thank you.